Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Turner et plus particulièrement l'aspect endocrinologique de cette maladie rare. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Michel Pollack. Professeur Pollack, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Pollack, vous êtes endocrinologue et diabétologue pédiatre, chef du service d'endocrinologie, gynécologie, diabétologie pédiatrique de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris et professeur à l'université de Paris-Cité. Alors, professeur Pollack, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quelles sont les conséquences d'ordre endocrinologique et notamment au niveau de la croissance observées lors du syndrome de Turner ?
Alors, il y a deux grandes conséquences. Il y a une première conséquence qui est une altération de la croissance. Donc, il faut se souvenir qu'en France, par exemple, les femmes atteintes du syndrome de Turner mesurent en moyenne 1,42 m et que la taille est inférieure à 2 déviations standards par rapport à la moyenne pour 95% des patientes. L'autre chose dont il faut se souvenir, bien sûr, c'est que ce retard de croissance est associé à une insuffisance ovarienne qui fait partie du syndrome de Turner. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un retard au diagnostic, une sous-estimation de cette pathologie. Et l'âge moyen, souvent, du diagnostic est autour de 8 ans, 9 ans, avec un délai qui aurait pu faire le diagnostic bien avant, voire 5 ans avant.
Alors justement, comment favoriser ce repérage précoce s'il y a un retard au diagnostic ?
Il y a toute une formation des familles, formation des médecins, à l'utilisation des courbes de croissance, pas seulement à mettre des chiffres dans un carnet de santé, mais à regarder visuellement comment est la croissance de l'enfant. Est-ce qu'elle se ralentit ? Est-ce qu'elle est en dessous des normes ? Est-ce qu'elle est loin de la taille cible familiale ? Bref, utilisons et visualisons la courbe de croissance au service d'un dépistage précoce du syndrome de Turner notamment.
Et devant quel signe demander une analyse chromosomique quand on suspecte un syndrome de Turner ?
En fait, il y a eu des guidelines, des guides définis dans des articles publiés au niveau européen et repris dans le programme national et de diagnostic et de soins de français. Un retard statural inférieur à moins 2 dS chez une petite fille, une insuffisance ovarienne, un morphotype un peu particulier évocateur avec un cou épaissi, des mamelons un peu écartés par exemple. Chez le nouveau-né, un lymphœdème néonatal, ou encore chez l'enfant et le nouveau-né, une coarcation de l'aorte, une bicuspidie aortique, un rétrécissement aortique, bref, des signes cardiologiques chez ces enfants doivent faire un cariotype ou un équivalent de cariotype, en tout cas une recherche d'anomalie de l'X. Et puis, on sait aussi que s'il y a deux malformations, comme les malformations rénales, une déformation des avant-bras, un peu tordu, ce qu'on appelle un syndrome de Madelung, des névis multiples, des problèmes de neuropsychologique et des otites à répétition. Tous ces signes, notamment quand il y en a au moins 2, doivent faire pratiquer un cariotype ou au moins une analyse des anomalies du chromosome X.
Et au-delà de l'impact sur la croissance que vous avez bien décrit, professeur Pollack, quelles sont les comorbidités à dépister ?
Alors, il y a de nombreuses comorbidités chez les enfants ayant un syndrome de Turner. Bien sûr, le retard statural, mais l'insuffisance ovarienne, comme on en a parlé, mais la malformation cardiaque avec le risque de dilatation de l'aorte ascendante, les malformations rénales, l'hypertension peu fréquente chez l'enfant, qui le devient beaucoup plus ensuite, la scoliose, les atteintes spécifiques de la maladie de Turner, du syndrome de Turner hépatique, il y a une plus grande fréquence de maladies auto-immunes, des intolérances glucidiques peuvent s'associer, une hyperlipidémie, des troubles de la minéralisation osseuse, parfois au premier plan les troubles ORL avec les surdités ou les hypoacousies, les troubles ophtalmologiques, des anomalies dentaires et encore, d'importance, des difficultés des apprentissages. Tout ceci doit faire l'objet systématiquement d'un dépistage chez les enfants dont on le sait qu'ils sont atteints d'un syndrome de Turner.
Et quelle prise en charge endocrinologique proposer à ces patientes ?
Alors, il y a une prise en charge de l'insuffisance ovarienne. Donc, il faudra, bien sûr, chez celles qui ne font pas spontanément, et c'est la grande majorité, induire avec des œstrogènes naturels la puberté. Et puis, il y a une autre grande prise en charge, qui est la prise en charge par hormones de croissance dans le syndrome de Turner. Il y a une efficacité démontrée dans plusieurs essais cliniques, dont certains randomisés, avec un gain de 8 à 10 cm, 7 à 10 cm, disons, selon les études, en termes de taille finale.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre entretien, professeur Polak. Pour conclure, quels sont les déterminants de qualité de vie à prendre en compte pour un bon suivi des patientes ?
Oui, alors c'est une question importante parce que traiter les enfants par hormones de croissance, mettre en route une estrogénothérapie, c'est bien sûr fondamental. Mais l'insertion et le bien-être de l'enfant dans une vision holistique de la prise en charge est tout aussi important. Alors, dans les études de qualité de vie, en fait, paradoxalement, la taille ressort assez peu. Ce qui ressort beaucoup, c'est des scores de qualité de vie altérés lorsqu'il y a des comorbidités, celles dont on a parlé, l'atteinte cardiaque grève la qualité de vie, l'atteinte ORL avec les surdités grève aussi cette qualité de vie. On sait tout de même que d'induire trop tard la puberté va altérer aussi cette qualité de vie, et en général, on propose maintenant d'induire les pubertés avec des doses faibles d'œstradiol naturel dès l'âge habituel de la puberté, aux alentours de 11 ans et demi, 12 ans. Donc, là aussi, dans une vision globale de l'enfant, ne pas se focaliser uniquement sur la taille et l'insuffisance ovarienne, mais aussi sur les autres aspects qui font la qualité de vie au quotidien de ces enfants.
Eh bien, merci mille fois, professeur Polak, de nous avoir fait mieux connaître l'aspect endocrinologique de cette maladie rare qu'est le syndrome de Turner. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.